BFM Business présente Les Experts sans frontières. Guillaume Paul.
Il est bientôt 18h, soyez les bienvenus dans les Experts sans frontières. Nos Experts sans frontières qui seront là bien sûr dans un quart d'heure comme tous les vendredis. Avec eux, on va passer en revue évidemment l'actualité internationale qui est très riche forcément à 3 jours du retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Le Proche-Orient, l'Ukraine, la Russie, la Chine, l'Europe, on va évoquer tous ces sujets avec eux bien sûr. Et puis tout de suite c'est le journal et là on va revenir sur les préoccupations plus franco-françaises, les retraites bien sûr notamment. C'est parti, on est ensemble jusqu'à 19h.
BFM Business, l'info éco.
Donc oui, parce qu'il a débuté aujourd'hui, vous savez, ce fameux conclave souhaité par François Bayrou pour ouvrir le dossier des retraites. François Bayrou a reçu pendant près de 2 heures les partenaires sociaux qui vont ensuite plancher sur le sujet pendant plusieurs mois. François Bayrou voudrait idéalement un accord d'ici la fin du mois de mai. Il y croit apparemment. Écoutez.
Toutes les organisations étaient là, organisations syndicales, organisations patronales, de l'agriculture aussi, toutes les organisations étaient là et toutes ont dit qu'elles venaient pour aboutir à quelque chose. Aucune d'entre elles ne pense que ça va être facile, et moi non plus. Je sais à quel point les obstacles sont nombreux et paraissent infranchissables, mais j'ai la conviction que cet effort que nous partageons peut déboucher sur quelque chose qui sera positif et encourageant.
Voilà, François Bayrou, après sa rencontre avec les partenaires sociaux. Bonsoir, Caroline Morisseau.
Bonsoir.
Il est optimiste, il ne peut pas faire autrement, mais c'est vrai que ça va être dur quand même.
Hein, c'est vrai, en tout cas, qu'à l'issue de cette première réunion, les divergences, les points de désaccord sautent aux yeux. Les syndicats vont continuer de se battre contre le recul de l'âge de départ à 64 ans. Pour la CFDT, il faut à minima bouger. La CGT, elle plaide carrément pour abroger toujours cette réforme. Les organisations patronales sont au contraire attachées à cette mesure. Elles l'ont répété à l'issue de la réunion. Côté financement, eh bien, les syndicats plaident pour une baisse des exonérations accordées aux entreprises ou une augmentation des cotisations patronales. Le patronat, lui, ne veut pas en entendre parler. Pas question d'alourdir le coût du travail. Autre point d'achoppement, le MEDEF veut relancer le débat autour des retraites par capitalisation. Là encore, cette fois, c'est les syndicats qui ne veulent pas en entendre parler. D'autres sujets sont plus consensuels, doper l'emploi des seniors ou améliorer la situation pour les personnes qui ont des métiers pénibles, mais encore faut-il là que les syndicats et le patronat arrivent à s'entendre sur les moyens d'y parvenir. Ils ne sont pas synchro sur les mesures pour parvenir à doper l'emploi des seniors, par exemple. Un seul point, en fait, fait consensus. Hors de question que les salariés du privé paient pour les retraites de la fonction publique. Syndicats comme patronat contestent le chiffre brandi par François Bayrou, selon lequel le coût des retraites de la fonction publique s'élèverait en fait à plus de 40 milliards d'euros. Et patronat et syndicats attendent de pied ferme avec impatience le rapport de la Cour des comptes qui sera dévoilé, qui est censé faire la lumière sur ces chiffres, sur le diagnostic financier du système, qui sera dévoilé le 19 février prochain.
C'est-à-dire dans un mois, puis après il restera grosso modo 3 mois pour trouver un accord si on respecte les chances de fin.
Exactement, et ce sera effectivement compliqué.
Ouais. Ça sera compliqué effectivement, mais on suivra ça évidemment au coup par coup. Merci beaucoup Caroline Morisseau avec nous sur BFM Business. En France, c'est le premier chiffre officiel de la Banque de France sur le sujet. Il y a eu l'an dernier quasiment 17% de faillite d'entreprise par rapport à l'année précédente, quasiment 66 000 donc en 2024 d'après les chiffres publiés. Ce matin, 18h02, pendant ce temps, on a une nouvelle prévision du FMI sur l'état de santé de l'économie mondiale. Le FMI attend désormais 3,3% de croissance cette année à l'échelle mondiale. Et il le confirme, c'est l'Amérique qui continue de mener la danse. Écoutez son chef économiste, qui est un Français, c'est l'économiste Pierre-Olivier Gourinchat. Écoutez.
L'économie américaine se porte très bien, avec un marché de l'emploi stable et une demande privée qui reste robuste. La confiance est bonne. Nous voyons donc de nombreux indicateurs qui sous-tendent cette révision à la hausse. Par contraste, si l'on considère les économies avancées, la zone euro repart par rapport à 2024, mais nous avons tout de même révisé nos prévisions à la baisse. Nous n'y prévoyons qu'une croissance de 1%.
Voilà Pierre-Olivier Gourinchat, chef économiste du FMI. Il y a l'Amérique qui rigole, il y a l'Europe qui pleure. Et puis il y a aussi la Chine dont on voulait dire un mot, parce que la Chine l'a dit officiellement ce matin, elle a fait 5% de croissance l'année dernière. C'est un des chiffres les plus faibles de ces 30 dernières années. La crise de l'immobilier pèse toujours, la population ne consomme plus. Alexandra Paget.
Dans les rues glaciales de Pékin, les consommateurs frileux et les commerces désertés reflètent assez peu les commentaires officiels qui saluent des résultats conformes aux attentes du Parti communiste chinois et le redressement remarquable de l'économie. La fréquentation de la boutique Dai Hua Yang, vendeuse de thé, a nettement baissé.
On a l'impression que l'économie s'est clairement dégradée et qu'il y a une peur de consommer et de dépenser de l'argent parce qu'il n'y a pas d'argent. Pour nous qui faisons du commerce, il est évident qu'il y a beaucoup moins de clients qui viennent dans notre magasin et les volumes d'achat des clients ne peuvent pas être comparés à ce qu'ils étaient auparavant.
Yango, ouvrier dans le secteur pétrolier, constate lui aussi un déclin de la consommation, pourtant l'un des moteurs de l'économie chinoise pendant des années.
L'année dernière, ça allait. Grâce à l'après-pandémie et à l'ouverture des marchés, la plupart des gens sont sortis et ont fait des achats. Mais il semble que les niveaux de consommation soient plus bas qu'avant, parce qu'après la pandémie, la pression sur toutes les industries était très forte. En termes de niveau de vie, il se peut qu'il y ait eu des coupes dans les achats les plus importants et les achats complémentaires.
Plus assez d'argent pour les achats complémentaires, signe d'une demande atone qui pèse toujours sur les prix. La Chine a de nouveau frôlé la déflation en décembre et les analystes s'accordent sur un nouveau ralentissement cette année.
Alexandra Paget, 18h05 dans l'actualité des entreprises. Beaucoup de choses ce soir. D'abord, sans surprise, la Cour suprême américaine qui a rejeté tout à l'heure le recours de TikTok. Vous savez, le groupe chinois voulait contester la fameuse loi qui pouvait le conduire à être interdit dès dimanche sur le sol américain, sauf qu'il y a quelques minutes, le département américain de la justice a un peu tempéré les choses en déclarant que l'application de cette loi allait s'étaler dans le temps. Il n'y aura donc pas de blackout sur TikTok sur le sol américain dès dimanche prochain. Ce dossier TikTok, Donald Trump en a parlé entre autres avec Xi Jinping, son homologue chinois. Donald Trump a expliqué qu'il avait parlé avec le président chinois tout à l'heure au téléphone. Ils ont parlé de TikTok, mais aussi du commerce. Ils ont parlé du fentanyl. C'était un très bon appel pour la Chine comme pour les États-Unis. Voilà ce qu'a déclaré Donald Trump tout à l'heure sur son réseau social. Et puis, Bruxelles, qui a 3 jours de l'investiture de Trump, remet un coup de pression sur X. Bruxelles décide d'approfondir l'enquête ouverte il y a 2 ans. Enquête pour déterminer si les agissements de X sont conformes au règlement du fameux DSA européen. Écoutez le porte-parole de la Commission européenne.
Aujourd'hui, la Commission a entamé de nouvelles procédures d'investigation sur la plateforme X dans le cadre de l'enquête ouverte il y a 2 ans. Nous envoyons aujourd'hui une demande d'information. Nous réclamons à la plateforme de nous transmettre tous ces documents internes concernant les changements ayant été apportés à leur algorithme récemment.
Thomas Régnier, le porte-parole de la Commission européenne, aujourd'hui à Bruxelles. Sinon, ça sera a priori une grosse annonce lundi prochain. Le français BPCE et l'italien Generali vont annoncer lundi qu'ils se marient dans le domaine de la gestion d'actifs. On va voir donc apparaître un géant qui pèse plus de 2000 milliards d'euros. Mathieu Pechberti avec Caroline Morisseau.
Des deux côtés, on met un point d'honneur à cette fusion à 50-50, une parité indispensable pour obtenir le feu vert des gouvernements français et italiens. Mais pour créer un nouveau géant européen de la gestion d'actifs à côté d'Amundi, tout le monde s'est mis d'accord. Cette opération reflétera un équilibre parfait entre BPCE et Generali. D'abord par une valorisation équitable de leurs activités. Elle se traduira aussi par une gouvernance partagée du futur groupe. Le conseil comptera le même nombre d'administrateurs des deux groupes. Il sera présidé par le patron de BPCE, Nicolas Namias, et le directeur général de Generali, Philippe Donnet, en sera le vice-président. La direction opérationnelle, en revanche, sera confiée au patron de la gestion d'actifs de Generali, qui sera secondé par son homologue de BPCE. Ni la banque française, ni l'assureur italien ne veulent en effet lâcher le contrôle de leurs activités. Pas question pour Generali d'abandonner ce précieux métier pour un assureur, contrairement à AXA, qui vient de vendre sa gestion d'actifs à BNP Paribas.
Voilà donc pour ce gros mariage qui devrait, d'après nos informations, être annoncé lundi prochain. Côté entreprise, c'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui, en tout cas de ce vendredi. Jiffy, la chaîne de magasins qui compte quand même 6000 salariés, Jiffy a finalement réussi à trouver un accord avec ses banques pour l'accompagner dans sa restructuration. Ce qui va laisser un laisser-répit pour réfléchir à la suite, bien sûr. Mathilde Chaminade.
470 millions d'euros de dettes effacées sur plus d'un milliard d'euros d'endettement. En échange, les banques créancières de Jiffy entrent au capital de l'entreprise à hauteur de 40%. Le fondateur Philippe Ginestet reste actionnaire majoritaire, mais il annonce sans surprise passer la main. Son remplaçant n'a pas encore été nommé. Plusieurs médias avancent le nom de François de Castelnau, l'actuel directeur général délégué de showroomprivé.com, mais surtout ancien directeur financier de Jiffy de 2015 à 2019. Pour garantir cet accord avec les créanciers, Philippe Ginestet a versé 270 millions d'euros de sa holding de contrôle, des fonds qui devraient être utilisés pour mettre en place un plan de restructuration sur 3 ans. Au programme de l'innovation, une stratégie prix-produit agressive, mais aussi des économies sur le marketing et la logistique, sans plus de précision. Aucune annonce concernant des suppressions de postes n'a été faite pour le moment. Jiffy emploie plus de 6000 personnes en France, dans plus de 600 magasins.
Mathilde Cheminade, et puis en France, coup de colère d'une profession qu'on n'est pas vraiment habitué à entendre d'habitude, ce sont les prothésistes dentaires. Ils sont furieux, figurez-vous, car apparemment, ils font face à une concurrence croissante de prothèses fabriquées en Chine, des prothèses low cost qui plaisent bien aux complémentaires santé françaises apparemment, parce que ça leur permet de faire des économies. Hélène Cornet nous raconte ça.
La moitié des prothèses dentaires posées en France seraient fabriquées en Chine, sans que les patients le sachent forcément d'ailleurs, malgré l'obligation de les informer de l'origine. Des économies de coûts pour les dentistes et pour les mutuelles qui en remboursent une partie. Peu de traçabilité en revanche et encore moins de contrôle. Laurent Munro est le président de l'Union patronale des prothésistes dentaires.
Aujourd'hui, nous avons une réglementation européenne très stricte sur les dispositifs médicaux qui nous demande de faire de la traçabilité, qui nous demande de respecter beaucoup de règles, qui nous demande de savoir exactement 10 ans après quel est le produit que nous avons mis, le numéro de lot du produit que nous avons mis. Est-ce que l'ANSM, l'Agence de sécurité du médicament, va aller en Chine pour vérifier les laboratoires chinois qui fabriquent la prothèse dentaire? Non, je ne le pense pas. Donc en fait, nous on est contrôlés, mais les autres ne sont pas contrôlés, et pourtant c'est eux qui vont bientôt faire la majorité des prothèses dentaires en France.
Le coût de fabrication d'une prothèse dentaire en France est de l'ordre de 120 euros, 50 euros en Chine. Des tarifs très compétitifs qui justifient ce choix selon certaines mutuelles. Les prothésistes demandent la mise en place de taxes douanières, alors même que Bruxelles accuse la Chine de limiter l'accès des équipements médicaux européens sur ses marchés publics.
Et voilà, d'où la colère des prothésistes dentaires français. Hélène Cornet avec nous sur BFM Business. 18h11, on va sur les marchés. Les marchés, bonsoir Aude Kersulec, on a terminé en hausse la semaine à Paris. Hein.
Oui, très belle semaine des marchés, notamment en Europe, où il y a eu des records aujourd'hui, et notamment en clôture, pas à Paris, hein, mais à Londres ou à Francfort, qui a terminé au-dessus de 20 900 points. Alors Paris poursuit aussi sur sa belle lancée, on a quand même fait plus 3,5% de progression sur la semaine. Aujourd'hui, c'était plus 1%, on est à 7 709 points ce soir, on est à un petit peu plus de 550 points du plus haut historique, donc on a tout de même de la marge, mais sachez que les marchés actions bénéficient de ce qui se passe en ce moment sur le marché obligataire avec une détente des taux. Malgré une semaine politique à risque, le taux 10 ans français a par exemple perdu environ 17 points de base et le spread avec l'Allemagne, l'écart s'est même resserré. Donc pour le moment, les investisseurs se sont plutôt sentis rassurés. On a d'autres choses aussi, le bal des publications d'entreprises a bien commencé avec les banques américaines. Le luxe, c'était en Suisse hier, mais ça a boosté le secteur. L'inflation qui a reculé au États-Unis, Wall Street qui avance encore aujourd'hui de 1%. Les planètes sont alignées, mais attention, il y a certains investisseurs qui disent que l'année boursière ne commence véritablement que lundi, même mardi d'ailleurs, parce que Wall Street sera fermé lundi, donc après l'investiture de Donald Trump.
Absolument, ça sera le temps fort lundi, on sera en direct, on sera sur le coup sur BFM Business. Merci beaucoup, Aude. On regarde ce qui se passe à Wall Street, évidemment, c'est la mi-séance sur le marché américain. Le Dow Jones qui progresse d'1%, 43 592 points. Le Nasdaq, de son côté, bien orienté effectivement, plus 1,5%, 19 634 en ce moment, précisément, à la mi-séance. 18h13, les experts sans frontières arrivent dans un instant. Beaucoup de choses à voir ce soir avec un dénominateur commun, bien sûr, Donald Trump qui revient à la Maison-Blanche dans 3 jours lundi. A tout de suite.
BFM Business présente les experts sans frontières. Guillaume Paul.
Allez, il est 18h17, c'est parti pour les Experts sans frontières. Comme tous les vendredis, on décrypte l'actualité française, européenne, internationale. Bah, il y a beaucoup de choses à dire, bien sûr, ce soir, à 3 jours du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Beaucoup de dossiers qui ont avancé, qui sont en gestation, dont on va beaucoup reparler à l'aune de cette présidence qui va débuter lundi prochain. On va en parler de toute cette actualité avec nos invités. Samir Etta qui est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Président du Cercle des économistes arabes, merci beaucoup d'être avec nous. Richard Verly est avec nous également, bonsoir Richard.
Bonsoir.
Correspondant du journal suisse Blick à Paris. Puis on ira faire un tour du côté de Washington dans un quart d'heure, retrouver notre correspondant Antoine Hollard, bien sûr, pour les dernières nouvelles du front. L'actualité ce soir, c'est Emmanuel Macron qui est donc au Liban, à Beyrouth, depuis quelques heures, pour apporter son soutien au nouveau dirigeant, le président Joseph Aoun, le Premier ministre Nawaf Salam. Emmanuel Macron qui a déambulé dans les quartiers aujourd'hui du côté de Beyrouth et qui a déjà vraiment en tête la reconstruction du Liban. Écoutez le président français tout à l'heure.
Dès que le président viendra à Paris dans quelques semaines, nous organiserons autour de lui une conférence internationale pour la reconstruction afin de mobiliser les financements à cette fin. La France sera à vos côtés avec l'Europe et toute la région pour mobiliser les amis du Liban. Et je sais aussi que vous aurez une grande vigilance pour que le cadre politique soit clair et que la manière de distribuer cette aide et les modalités de la reconstruction permettent de garantir une gouvernance transparente au service de la population et des territoires.
Voilà Emmanuel Macron tout à l'heure du côté du Liban. Il y a la question de la reconstruction, mais déjà en amont, encore des interrogations sur la stabilité politique. Monsieur Aïta, d'accord, voilà, ça n'est pas encore acquis à ce stade.
La stabilité politique et la présence du Liban en tant qu'État indépendant.
Oui.
Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le Liban est sous protectorat
oui.
américano-israélien, oui. avec le processus du cessez-le-feu. Il y a un général
du 27 novembre.
Américain qui dirige un peu les opérations, y compris les mouvements de l'armée libanaise, qui est payé par les États-Unis parce que le pays est effondré financièrement, bon, point de vue financier. Il faut se rappeler que la France, dans ce jeu-là, n'a pu être acceptée dans le jeu de régulation que parce que le ministère des Affaires étrangères a fait une grande déclaration un peu bizarre et illégale en France, qu'ils ne vont pas arrêter Netanyahou le jour où ils veulent, donc ils ont été acceptés dans Manchan. Bon. Mais le Liban, donc il a un problème au point de vue du protectorat israélo-américain, mais il a un problème meilleur aujourd'hui avec l'élection du président Aoun général, etc., dont tout le monde espère qu'il fera peut-être un peu comme son prédécesseur dans les années, fin des années 60,
oui.
qui a fait toutes les lois qui existent au Liban ont été faites à cette époque-là, puis après tout s'est arrêté et c'est devenu le jeu des chefs de guerre,
oui.
etc. Il y a un bon Premier ministre qui a été sélectionné, mais est-ce qu'ils sont...
Mais qui a encore du mal à former son gouvernement, parce que le Hezbollah est encore là, malgré tout.
Le Hezbollah n'est plus en tant que force militaire. C'est fini. Il est détruit. Hassan Nasrallah, qui avait un aura dans
affaibli, mais oui.
Affaibli. Les chiites libanais insultent l'Iran, qu'elle les a laissés tout seuls. Donc, c'est pas un problème. Alors, c'est vrai qu'ils sont opposés à rentrer dans le jeu, mais il pourra former un gouvernement. Mais c'est ouais. pas ça le problème. Le problème, c'est que la manière de fonctionner en politique au Liban, il faudra au président, nouveau président libanais, beaucoup de temps pour
oui.
Régler la situation, que ça devienne un état de droit complet. Aujourd'hui, la chose la plus étonnante, alors que les islamistes ont pris le pouvoir en Syrie, la contrebande continue à
contrebande,
nouveau.
Oui,
entre le Liban oui, et la oui. Syrie, comment gérer?
Absolument. Richard Verly.
Oui, je pense qu'il y a premier défi, c'est l'État libanais. Et c'est là où Emmanuel Macron, qui, il faut bien le dire, est un peu le champion des conférences internationales. C'est-à-dire que devant chaque problème important...
Accueilli à bras ouverts aujourd'hui. Voilà. Il a été le premier en 2020 à venir après l'explosion qui avait fait 220 morts. On s'en souvient.
Oui, alors voilà. C'est bien, il faut ce genre de conférences internationales. Oui. Et on peut saluer l'action du président français qui est donc l'un des tout premiers, peut-être le premier dirigeant à se rendre sur place depuis le cessez-le-feu, depuis l'arrêt des frappes oui. israéliennes. Mais la vraie question, c'est est-ce que le Liban peut se reconstruire aujourd'hui comme un État de droit et surtout, qui va y investir ? Alors, bien sûr, il y aura l'aide publique, c'est une chose, mais on sait bien que la reconstruction d'un pays, ce n'est pas que de l'aide publique. Oui. Il faut des investisseurs qui fassent confiance. Non. Et on voit mal aujourd'hui qui pourrait investir au Liban, mais peut-être que je me trompe.
Samir Haïta.
Non, non, il y a l'effondrement financier. On n'a toujours pas résolu le problème de l'effondrement financier en 2019. Personne ne veut travailler avec les banques libanaises. Aujourd'hui, il y a un gouverneur par intérim, donc il y a un problème réel. Aujourd'hui, le Liban est une économie cash.
Oui.
Que veut dire économie cash ? Elle est sur la liste grise des instances internationales, donc il y a un problème de fond. On ne peut pas faire de la reconstruction sans banque, sans institutions financières, etc. C'est toujours un peu du jeu avec l'Arabie Saoudite. On sait très bien que M. Macron aille là-bas, il est plus populaire chez certaines catégories de la population, la mer, oui, France, etc., qu'en France même. Bon, c'est mignon, mais ça ne résout pas le problème. Les sous doivent venir des pays du Golfe, mais il y a un chantier intérieur énorme à faire avant d'arriver à la reconstruction, sachant que la reconstruction concerne essentiellement... Oui. Les villages chiites du sud, oui, et la banlieue, oui, chiite.
Donc il faut amener de la stabilité politique avant de véritablement parler reconstruction, puis on verra ce que donnera cette
stabilité
conférence.
Politique, stabilité, oui, économique, du système financier, etc. Oui. Parce que, comme il a dit, le système libanais à plein de lieux de fuite, oui, dans tous les genres.
Alors, Emmanuel Macron, qui est au Liban, qui devrait croiser le secrétaire général des Nations Unies, qui est sur place, ils sont censés parler, évidemment, de la situation au Liban. On peut aussi parler de la situation au Proche-Orient, dont on parle. On a appris, d'ailleurs, au passage, que le cabinet de sécurité israélien avait donné son feu vert à l'accord de cessez-le-feu qui a été conclu en début de semaine entre Israël et le Hamas. Vous savez que c'était la grande question ces dernières heures. Qui a en partie facilité cet accord de cessez-le-feu ? Est-ce que c'est Donald Trump ? Ou est-ce que c'est Joe Biden ? Écoutez la réponse de Joe Biden. Vous savez, quand la question lui a été posée il y a de ça quelques heures à la Maison-Blanche.
Cet accord a été conçu sous mon administration. Mais ces conditions seront mises en œuvre pour l'essentiel par la prochaine administration.
Qui doit tirer crédit de cet accord, vous ou Trump ?
C'est une blague ?
Thank you. Thank you. Et de tourner le dos. Samir Haïta, enfin, effectivement, c'est anecdotique. Ou peut-être pas tant que ça, finalement, dans la perspective de l'étape d'après.
Pas tant que ça, puisque de toute façon, M. Trump a menacé les Palestiniens. Mais à mon avis, le message était aux Israéliens aussi qu'il fallait réaliser l'accord avant son arrivée. Ouais. Autrement, ils détruiraient je ne sais pas quoi. Donc, bon, ils ont discuté tous les deux, Biden et Trump, pour arriver à un accord, vite, ça a été signé avant quelques jours avant l'arrivée, mais ça ne résout pas tout le problème. On est dans un temps, je dirais, du grand Israël. Netanyahou est allé aux Nations Unies et puis dans d'autres lieux dire « J'ai vaincu, j'ai cassé Gaza, j'ai réduit le Hezbollah, j'ai tué Hassan Nasrallah, j'ai changé le régime en Syrie ». Et bien sûr, je vais m'occuper de l'Irak et de l'Iran. Donc, et M. Trump dit, ah oui, Israël, c'est trop petit, il faut l'agrandir. Les Israéliens, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé en Syrie, rentrent en Syrie et cassent l'accord de 1974, se baladent maintenant au-delà du terrain. M. Trump va se comporter vis-à-vis de ça et sur les Palestiniens.
Alors, pour vous, quel est le plan de Trump dans la région aujourd'hui, très clairement?
Lui, sa grande déclaration, c'est qu'il ne veut plus de guerre. Alors, je ne sais pas comment il va faire, puisque...
Il y a différentes façons d'arrêter une guerre, hein, y compris en la menant, sur d'autres fronts.
Aujourd'hui, les grandes, c'est-à-dire les deux grands poids dans la région, c'est l'Empire ottoman, donc les Turcs
oui,
et le Grand Israël, qui sont un peu en collaboration
et en
compétition. L'Empire ottoman n'aime pas les Kurdes. L'armée américaine est à côté des Kurdes, donc il les défend, soi-disant parce qu'ils sont garantis contre Daesh. Ses relations avec Erdogan sont moins bonnes qu'il n'y paraît. Il est plutôt copain avec Poutine. Ses relations avec Netanyahou, je pense que Netanyahou était plus copain avec Biden qu'il ne le sera avec Netanyahou. Peut-être je me trompe. Il va jouer quelque chose, mais à mon avis, c'est pas sa priorité. Sa priorité, c'est de régler ses comptes dans son pays, oui, avec ça, le Canada.
Mais ça, on en parlera un petit peu après, effectivement. Richard Verly, sur la situation au Proche-Orient. Qu'est-ce qu'a Trump en tête? Quelle est l'étape next step, finalement?
Moi, je pense qu'il y a deux éléments. Il y en a un qui est regarder le profil des deux principaux émissaires de Donald Trump pour cette région, c'est-à-dire Steve Witkoff, celui qui s'est occupé de cette négociation.
Il était encore à Jérusalem dimanche dernier.
Exactement. Et le futur ambassadeur qui ouvertement dit que la colonisation israélienne en Cisjordanie, elle est bienvenue et normale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire clairement que Trump, il est favorable au grand Israël. Il faut dire les choses, ça lui convient. Ça convient à ses financiers qui sont, pour une part, des milliardaires juifs américains et qui financent largement Netanyahou. Donc je crois qu'il ne faut pas se tromper. Trump, il n'est pas là pour sauver les Palestiniens. Il est là, d'une part, parce qu'il voulait la paix, ça a été dit, pour son investiture. Il voulait avoir une bonne nouvelle à annoncer et il est probable que lundi, il en rajoutera sur ce terrain.
Lors de son discours,
deuxièmement, il est d'accord pour que Israël, je dirais, augmente sa surface géographique. Et troisièmement, avec Trump, il faut que ça rapporte. C'est-à-dire que pour lui, un investissement diplomatique doit rapporter. Comment ça peut rapporter ? Ça peut rapporter de deux manières. D'abord, en allant frapper à la porte de l'Arabie Saoudite, vous savez que son grand rêve, et il l'avait tenté avec les accords d'Abraham, c'est de réconcilier, ou en tout cas de normaliser les relations entre l'Arabie Saoudite et Israël.
Ce qui est déjà en partie le cas aujourd'hui.
Ce qui est déjà en partie le cas, mais il faut quand même reprendre. Ça rapportera. Et puis, l'autre chose, c'est toute la reconstruction. Et vous savez que, sans plaisanter, il a dit que pour lui, l'avenir de Gaza, c'était d'être un nouveau Monaco, de reconstruire. Et vous avez immédiatement des milliardaires de Las Vegas, un certain nombre de confessions juives qui ont dit, mais pourquoi pas, nous on est prêts à participer à ça. Donc, il ne faut pas prendre ce genre de choses, à mon avis, à la légère.
Bien sûr.
Vous savez, aux États-Unis, il y a quoi ? Il y a des réserves indiennes avec des casinos dessus. Eh bien, sans vouloir faire un parallèle immédiat, je pense que dans la tête de Trump, ça veut dire quelque chose.
D'accord avec ce que nous dit Richard Verly, Samir Haïta. Oui, effectivement, oui. On pense déjà à la reconstruction des territoires palestiniens du côté de l'administration américaine.
On pense à ça. Il y a des groupes qui travaillent dessus, américains, israéliens.
Qui nous rappelle l'Irak, bien sûr, il y a 25 ans, évidemment.
Mais cette région, c'est le lieu de naissance des religions, c'est la plainte d'histoire, etc. Que la mémoire collective préserve. Si on veut faire les casinos, il faut enlever tous les gens qui sont à Gaza ou les mettre.
Ce que certains préconisent.
Ce que certains préconisent, etc., les mettre en Jordanie ou en Égypte. L'Égypte est déjà en difficulté financière énorme. Donc, à un moment donné, sous la pression, il accepterait peut-être de le faire. Donc, le problème de construire tout ça et de faire tout ça dépend de la relation avec la population. Si on n'arrive pas à trouver une relation raisonnable avec la population, c'est difficile. Regardez les Gazaouis. Ils se sont battus pendant un an et demi alors qu'ils sont encerclés. Vont-ils accepter un sort quelconque ?
Il y a la question du conflit israélo-palestinien. Vous parlez de l'Iran tout à l'heure. Écoutez ce que disait Trump, parce que ça aussi, ça sera une interrogation des prochains mois. Ce que disait Trump sur la position américaine vis-à-vis de l'Iran, c'était en octobre dernier, donc on était avant l'élection de Trump, pendant la campagne présidentielle américaine. Écoutez.
They asked him.
Quand ils ont demandé à Biden ce qu'il pensait de l'Iran, pour savoir s'il aurait voulu frapper l'Iran, il a répondu qu'il ne fallait pas toucher au nucléaire. Mais c'est exactement ce qu'on veut toucher, non ? Je me suis dit, il a dû se tromper, c'est exactement ce qu'il faut frapper. C'est la plus grande menace, les armes nucléaires.
Est-ce que vous dites que l'Iran est à ce point affaibli par les derniers soubresauts du côté de la Syrie que le dossier iranien sera secondaire finalement dans les prochains mois ?
Vous savez, moi je compare les pays de la région, de la Turquie, d'Israël, l'Arabie Saoudite, les Émirats, etc. Un champ de loups. Normalement, la meute de loups, elle se coalise contre quelqu'un d'autre. Là, c'est des champs de loups qui se mangent entre eux. Bon, il y avait un seul loup qui n'était pas américain, c'est l'Iran. Là, le loup iranien, il est hors circuit.
Vous dites qu'il est hors circuit aujourd'hui, voilà. Donc ça ne sera
pas. Il est hors circuit à Gaza, il est hors circuit au Liban, il est hors circuit machin. Il s'est protégé. D'ailleurs, même tous les gens qui étaient pro-Iran en Syrie, en Liban et machin, aujourd'hui, ils détestent l'Iran parce qu'il les a lâchés. Ils n'ont rien fait de substantiel pour les défendre. Donc l'Iran regarde ses propres problèmes. Et le président iranien vient de signer aujourd'hui un accord stratégique long terme avec Poutine, avec la Russie. Oui. Donc, pour se protéger, ils ont peur, ils se protègent. Et l'Iran est affaibli et hors circuit.
D'accord avec ça, Richard Verli, l'Iran est hors circuit. Ça ne sera pas le diable que Trump mettra en avant dans les prochains mois, les prochaines années, pendant son mandat. Finalement.
Encore une fois, Trump, il l'a dit qu'il veut la paix. Certains disent d'ailleurs qu'il rêve de prix Nobel de la paix.
Oui.
Donc, aller frapper l'Iran et frapper les installations nucléaires de l'Iran, c'est pas faire la paix. C'est ouvrir un front, et il a dit qu'il ne le ferait pas. Et puis, n'oublions pas que qu'est-ce qui intéresse les États-Unis version Donald Trump, c'est un Iran en quelque sorte gelé, isolé, incapable de bouger, parce que un Iran qui est sous sanctions, rappelons-le, un Iran qui ne peut pas exporter son pétrole, et un Iran qui maintenant ne peut plus exporter ses armes et sa volonté de nuire. Ça le convient très bien à Donald Trump. Il n'a pas besoin aujourd'hui d'aller frapper les installations nucléaires. Il a peut-être même peur qu'un Netanyahou, par contre, lui, fasse cela. Et donc, je pense que depuis cette déclaration, il a dû un peu réviser ses positions. Son intérêt, encore une fois, c'est un Iran qui est avant tout absorbé par ses problèmes, d'un régime des mollahs qui ne peut pas exporter ni sa révolution, ni ses guerres.
Une économie, économie complètement...
Oui, parce que, n'oublions pas le refrain qu'il va sûrement répéter lundi, « Drill, baby, drill ». Il veut que les Occidentaux, à commencer par les Européens, achètent du gaz et du pétrole américain.
Et donc, on pourra encore plus se passer du pétrole iranien notamment, qui est un des grands producteurs. Mais si on marque une pause, on revient dans 3 minutes, on continue ce débat passionnant. On va aller du côté de Washington, où nous attend Antoine Nolard, pour voir si ce qu'on décrit généralement comme les 100 premiers jours d'un président ne pourrait pas en fait là être les 100 premières heures au cours duquel beaucoup de choses pourraient se passer. On revient dans 3 minutes, à tout de suite.
BFM Business présente Les Experts sans frontières. Guillaume Paul.
Allez, 18h37, on est toujours ensemble dans les Experts sans frontières pendant encore une vingtaine de minutes avec Samir Haïta, avec Richard Verli. Puis on va retrouver Antoine Nolard, notre correspondant à Washington, parce que bien sûr, je ne vous apprendrai rien en vous disant que Donald Trump va prêter serment dans 3 jours. Bonsoir Antoine, merci d'être avec nous quelques instants, parce que on entend souvent parler dans les débuts de mandat des 100 premiers jours d'un président américain notamment. Or là, ce qu'on entend, ce qu'on lit, nous laisse penser qu'on va surtout devoir se focaliser sur les 100 premières heures avec ses exécutifs. Orders, Antoine, ces décrets que Trump pourrait dégainer très très rapidement finalement. Hein.
Oui, exactement. Alors déjà, il faut rappeler que c'est une tradition aux États-Unis. Le président, lorsqu'il a prêté serment sur les marches du Capitole, il se rend ensuite à la Maison-Blanche, il s'installe au bureau ovale et il commence à signer les premiers décrets pour lancer sa présidence. Mais là, avec Donald Trump, on s'attend vraiment à une avalanche de décrets. On parle de plus d'une centaine de décrets qui pourraient être signés dès le premier jour sur tous les grands thèmes phares de la campagne, à commencer bien sûr par l'immigration. Trump a promis d'expulser 11 millions de sans-papiers et il pourrait donc prendre des décrets par exemple pour donner plus de pouvoir à la police et permettre d'arrêter des personnes en situation irrégulière, pour renforcer aussi les moyens à la frontière ou pour relancer la construction du mur avec le Mexique. Autre sujet très important pour lui, les énergies fossiles, le gaz, le pétrole. Trump a promis, je le cite, qu'on va forer comme des malades dès le premier jour, drill baby drill, hein, le fameux slogan. Il va donc sûrement accorder lundi de nouveaux permis aux industriels. Et puis toujours sur l'économie, on s'attend à ce que le président américain impose de nouveaux tarifs douaniers, 25% sur les produits importés du Canada et du Mexique, 10% pour la Chine, c'est en tout cas ce qui est attendu. Enfin, il y a un autre sujet très important aussi pour Donald Trump, qui dès le premier jour va sûrement gracier ses partisans qui avaient envahi le Capitole. Vous vous souvenez, il y a 4 ans, il y a environ 1000 personnes qui ont été condamnées. Trump considère que ce sont des prisonniers politiques, des otages, et il va donc signer un décret pour les gracier. Donc vous voyez, des mesures spectaculaires, radicales, qui vont donner le ton des 4 prochaines années.
Merci beaucoup Antoine, merci d'avoir été avec nous ce soir. Antoine Nolard, donc à Washington pour BFM Business. Ça va partir très 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 vite.
Oui, vous imaginez la scène, le stylo et cette signature, et vous l'avez en tête, de Donald Trump.
Oui, il montre toujours les décrets comme ça aux caméras. Enfin, on connaît.
Écoutez, parce que il y a d'abord chez lui. D'abord, c'est la tradition que les présidents démarrent par une série d'executive orders, ça a été dit. Et ensuite, parce que Donald Trump, c'est vraiment, ça fait des mois qu'il annonce ça. Vous savez qu'il avait même dit, je ne serai dictateur une journée. Il avait répondu, je serai peut-être dictateur une journée, la première journée. Donc, pour lui, c'est la journée où tout doit se décider. Au fond, c'est la journée où l'Amérique et le monde doivent oublier Biden, voire tous ses prédécesseurs, c'est le retour de Donald Trump. Et après, il y a aussi le fait que c'est un signal politique à adresser. Par exemple, s'il signe, comme on vient de le dire, des décrets sur les migrants, oui, sur les forages pétroliers, sur les tarifs, ça veut dire que ce seront les principaux axes de sa présidence. Alors, il faut quand même voir, les faits vont reprendre ensuite leurs droits. Moi, par exemple, j'étais au Texas au mois de novembre, le long de ce fameux mur. Je rappelle quand même que la frontière, pour prendre l'état du Texas seulement, la frontière, elle fait 1200 miles, c'est-à-dire à peu près 2000 kilomètres. Le mur d'aujourd'hui, il en fait à peu près 50.
Oui, voilà,
Donc, on est encore loin de la forteresse Amérique, mais ça peut aller très vite. Et surtout, attention, ça peut à ce moment-là donner une sorte de signal, notamment, vous savez, à ces milices armées qui traquent les migrants, de se mettre à faire des choses que pour l'instant, elles n'osent pas encore faire. Et là, ça peut, pour dire les choses simplement, entraîner un état de guerre dans pas mal de zones frontalières.
Mais je rebondis sur le terme de dictateur, puisqu'effectivement, c'est la phrase, c'est la boutade. Enfin, est-ce que c'est une boutade d'ailleurs? On verra ça. Dit, je vais être dictateur seulement le premier jour. Samir Haïta, qu'est-ce que vous craignez? Vous redoutez quelque chose? Que Trump règle ses comptes d'une certaine façon?
Moi, j'ai peur, à part d'autres éléments du genre les bitcoins comme réserve américaine, etc., dans ce sujet financier qui tient à cœur. J'ai peur qu'il commence à régler ses comptes politiques à l'intérieur. C'est-à-dire, il a un problème avec les médias, certains médias.
Oui. Alors, certains sont rentrés dans le rang depuis quelques mois quand même.
Oui, mais d'autres non.
Certains, après coup, ont fait un mandat honorable après son élection.
Et le problème, s'il attaque le Washington Post ou d'autres, comment vont réagir l'ensemble des médias? Les Américains sont très attachés à la liberté d'expression, etc. Il y a ses ennemis politiques qui lui ont fait des malheurs, etc., avec des procès. Il peut déclencher quelque chose qui est, si les autres républicains ne le tiennent pas un peu en laisse, je parle de discussions à Washington en mai dernier où j'étais, ça risque de gâcher toute l'ambiance aux États-Unis. Il y a plein de gens qui ont peur. Regardez par exemple ce qu'il a raconté sur les feux en Californie, etc. Oui. Incompétent, machin. Enfin, dans des forêts avec un vent de 150 km à l'heure, vous ne pouvez pas faire grand-chose.
Oui. Vous ne pouvez pas mettre ça sur le dos des démocrates, forcément, effectivement. Mais vous voyez déjà que du côté des républicains au Congrès, ça commence à freiner des cas de fer sur certains aspects de son programme, notamment le creusement des déficits et les baisses d'impôts.
Oui, mais
donc
alors,
ça ne va pas être simple non plus. Enfin, ils vont quand même. Et puis il faut préparer l'après-Trump. Qu'on en dise. Enfin,
oui, mais si l'on s'en tient, moi j'ai regardé deux. Alors j'ai pas regardé les auditions du secrétaire candidat au poste de secrétaire au Trésor qui s'appelle Scott Bessent.
On a diffusé hier soir, qui promet un âge doré.
Voilà. J'ai regardé les auditions en revanche de deux autres nominés qui sont celui pour le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, et la personne Tulsi Gabbard qui dirigera les services de renseignement. Très franchement, les démocrates, ils se sont couchés. Ils se sont couchés. Ceux qui ont essayé de commencer à résister, à vraiment challenger leurs interlocuteurs, ça s'est très vite arrêté. Je pense que
les républicains se sont couchés.
Pas les républicains.
Les républicains se sont couchés devant Trump. Ça, on le savait. Mais les démocrates ont été beaucoup moins féroces dans leur opposition qu'on ne pouvait s'y attendre. Et pour moi, c'était une surprise. Donc, ça veut quand même dire que là, qu'on le veuille ou non, Trump, il aura ce qu'on appelle en France un état de grâce. Il l'aura. Il l'a déjà. Il va l'exploiter au maximum. Ne nous leurrons pas, c'est pas le moment. Les démocrates vont sans doute commencer à se réveiller avec pugnacité quand on va se rapprocher des midterms, c'est-à-dire ça vient vite, mais c'est quand même dans 2 ans.
Oui.
Ça donne toute une idée sur le jeu qui n'est pas seulement américain, mais aussi en Europe, etc., avec le renforcement de l'extrême droite et des idées d'extrême droite, le fait que les gouvernements plus modérés, plus centraux jouent des politiques d'extrême droite pour que l'extrême droite n'arrive pas au pouvoir.
Oui.
Bon, le jour où ils arrivent, avec ce processus, etc., ils auront peut-être des politiques très exagérées.
Bon, l'après-Trump n'a pas vraiment commencé encore dans le camp républicain. On va attendre les mi-termes, c'est ça que vous nous dites.
Dans tous les cas, il a une. C'est plus qu'une fenêtre de tir. Il a un boulevard devant lui. Il va l'exploiter. Oui. Maintenant, à mon avis, plus que l'opposition politique qu'il qu'il pourrait rencontrer au Congrès, parce que pour l'instant, elle ne se matérialise pas. Il y a les faits. Et les faits, il y en a deux qui peuvent se dresser sur sa route. D'abord, il y a les États.
Oui.
Tout simplement, les États-Unis, ne l'oublions pas, est un pays
oui.
fédéral.
Oui.
Donc, ça va pas être aussi simple qu'il ne le pense et qu'il ne le dit. Et puis ensuite, il y a les hommes et les femmes. C'est-à-dire, par exemple, je prends l'exemple du Texas où j'étais, à la fois les gens vous disent « il faut expulser les migrants, mais on ne veut pas devenir une zone de guerre ». On ne veut pas que la garde nationale se mette à tirer sur les migrants le long des routes ou le long... Donc, les Américains ne souhaitent pas qu'une traque aux migrants se mette en place parce qu'ils savent très bien que dans un pays où tout le monde a des armes,
ouais.
ça pourrait très vite dégénérer.
Tout ça commence bien sûr lundi. Et j'en profite, si vous regardez la télévision, pour vous rappeler de toute façon le programme de lundi prochain, dispositif spécial pour l'investiture de Donald Trump, qui devrait prêter serment aux alentours de 18h pour nous en France. On sera en édition spéciale à partir de 18h sur BFM Business, le 18h Echo. La grande interview avec Edwige Chevrillon à 18h30 et puis les experts du soir, on sera ensemble de 18h à 20h pour suivre tout cela bien sûr en direct. L'autre sujet, on va revenir sur l'étranger. Alors ça met Trump dans la boucle indirectement, c'est bien sûr la situation en Ukraine, la résolution ou pas du conflit russo-ukrainien. Écoutez, là aussi, ce que disait Donald Trump tout récemment, il est prêt évidemment à rencontrer Vladimir Poutine pour en parler. Écoutez.
Le président Poutine souhaite me rencontrer. Il l'a même dit publiquement. Nous devons mettre fin à cette guerre sanglante. Les soldats sont tués par millions et je pense que les chiffres vont augmenter au fil du temps. C'est une guerre qui n'aurait jamais eu lieu si j'avais été président. Je vais vraiment essayer d'y mettre fin aussi vite que possible.
Bien, donc là la question c'est est-ce qu'on règle ça en 24-48 heures? A priori non. On négocie avec qui? Est-ce qu'on met Zelensky dans la boucle ou pas? C'est une des nombreuses questions, mais c'est celle-ci qu'on pense notamment.
Ce qui est très étonnant, c'est qu'il annonce sa rencontre avec Poutine avant d'être président.
Oui.
Donc c'est qu'il y a les négociations ont déjà commencé avant qu'il n'y arrive. C'est vrai que c'est quelqu'un de son... Dans son analyse, il n'aime pas Zelensky parce qu'il n'aime que les hommes forts sur place, les hommes d'affaires, les hommes politiques très costauds, même d'extrême droite, ça c'est... Il aime ce genre d'interlocuteur. Des gens de son entourage m'ont raconté que quand il rencontrait d'autres présidents, il préparait des notes, des machins, etc. Et à un moment donné, il les virait tous. Il se mettait en tête-à-tête avec l'autre président, etc.
Et on parlait d'homme à homme.
Pour parler d'homme à homme, et il sort en disant tout est résolu. Et les autres ont besoin de quelques semaines pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, Trump n'a pas intérêt à jeter complètement la Russie aux mains de la Chine. Il veut jouer que c'est lui qui décide la relation avec la Russie, c'est lui qui décide la relation avec la Chine et qui les tient en laisse. Alors que s'il se coalise complètement contre lui, il aura beaucoup plus de mal. Donc il va jouer ce jeu-là. À mon avis, il va faire un deal avec Poutine et du...
Mais dans le dos de Zelensky, alors? Dans le dos de Zelensky,
c'est... Ce qui est très étonnant, c'est comment, il y a quelques semaines, Zelensky sort et fait des concessions.
Oui.
Je suis capable de concéder des territoires à la Russie.
Parce qu'il sait qu'il ne peut pas regagner ses territoires, tout simplement.
D'une part, il sait que Trump ne l'aime pas et quand il arrivera, il va faire quelque chose sur son...
Oui, Richard. Il y a quand même une information qui est très préoccupante. On parlait tout à l'heure du Proche-Orient.
Ouais.
L'émissaire de Donald Trump a littéralement travaillé à obtenir le cessez-le-feu alors que Donald Trump n'est pas président. Là, dans le cas de l'Ukraine, l'émissaire de Donald Trump n'est même pas allé en Ukraine et n'ira pas en Ukraine alors que c'était annoncé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, est-ce que c'est quelque chose...
En tout cas, que Trump ne veut pas mettre Zelensky dans la boucle. C'est ça l'idée.
Alors, est-ce que cela veut dire ça? C'est une première possibilité. Est-ce qu'il a entamé des discussions avec Poutine et que les réponses qui sont venues de Moscou ne lui paraissent pas satisfaisantes? En tout cas, je pense que l'élément le plus inquiétant, c'est en ce moment la situation politique qui se tend énormément en Ukraine.
Oui.
Zelensky de plus en plus critiqué, un gouvernement qui est vraiment englué dans cette situation militaire qui se dégrade, il faut bien le dire, et Peut-être que Trump est à la recherche d'une solution politique pour l'Ukraine qui lui convienne.
Oui.
Alors là, on
mais peut... le bon deal pour Trump sur ce dossier, pour vous, c'est quoi? Pour ne pas laisser trop là, effectivement, la Russie partir dans les bras de la Chine, comme le disait.
On en a beaucoup parlé. C'est un deal à la coréenne, où il y a une zone démilitarisée, qui est gardée côté ukrainien par les Européens en achetant des armes américaines. Là encore, n'oublions pas l'intérêt de Trump. C'est un conflit gelé. L'arrêt des combats, c'est pas une paix durable. L'arrêt des combats, parce que pendant ce temps-là, les partis continuent de s'armer et, si possible, d'acheter américain.
D'accord, Samir Etta, vous achetez
la guerre de.
Enfin, de zone démilitarisée, ce qu'on appelle la DMZ, depuis, voilà, c'est ça. C'est,
depuis
c'est...
Mathusalem.
Oui. Absolument, depuis 1953, tout à fait.
1953, et bon, il se passe rien sur cette frontière. L'essentiel, c'est qu'il cédera les territoires du genre Crimée, le Donbass, etc., à la Russie. Ce sont des populations russes, de toute façon. Et l'erreur de l'État ukrainien pendant la période d'après, c'est ne pas avoir discuté avec ces gens-là, alors que toutes leurs élites sont partis en Russie.
Écoutez, Zelensky, justement, qui dit « Mais vous savez, Trump est tellement imprévisible qu'on ne sait jamais, il peut avoir envie de dealer avec moi, éventuellement, sur ce dossier. »
Trump peut être décisif. Je pense que c'est la chose la plus importante pour nous. Il peut être décisif dans cette guerre. Il peut nous aider à arrêter Poutine. Je pense qu'il est à la fois fort et imprévisible. J'aimerais vraiment que cette imprévisibilité du président Trump s'applique à la Russie. Je crois qu'il veut vraiment mettre fin à cette guerre.
Dit ça un peu avec l'énergie du désespoir quand même quand vous l'écoutez. Hein, voilà.
Oui, mais il a raison.
Que lui-même n'y croit pas trop.
Non, mais il a raison. Trump va d'ailleurs jouer de cette carte imprévisible vis-à-vis de Poutine. Je ne pense pas que Trump va faire un deal à, comme ça avec Poutine.
Un cadeau.
Il a intérêt à ce que Poutine se méfie quand même. Il a intérêt à ce que Poutine ait peur. Par contre, pour faire un deal, il faut s'appuyer sur un partenaire ukrainien. Et là, à mon avis, il y a un point d'interrogation. J'ajoute juste, on l'a tous constaté, l'absence totale de l'Union européenne sur ce dossier ukrainien
c'est vrai, en ce moment, c'est très
inquiétant.
Samir Etta, vous êtes d'accord? Oui, effectivement, l'Europe complètement absente dans ces négociations qui vont le rester. Voilà.
Et Trump se mêle des élections allemandes, se mêle des élections ailleurs, etc. Non, c'est vrai que pour lui, l'Europe n'existe plus. C'est-à-dire qu'en tant que puissance rivale économique ou militaire des États-Unis, c'est un pays, enfin, c'est une région dépendante des États-Unis. Bon, il suffit de la titiller un peu. Et les exsangues, c'est-à-dire la grande puissance économique aujourd'hui allemande, qui avait des relations privilégiées avec la Russie, avec le gaz russe qui passait, aujourd'hui, elle est cassée. La dynamique est cassée de l'Allemagne. Et ça veut dire que toute la dynamique de l'Europe est cassée, quel que soit le show français. Culturelle.
L'Allemagne est dans le collimateur des Américains d'ores et déjà de Trump. Trump soigne ses relations avec la Russie, effectivement. Et Trump qui soigne aussi ses relations avec la Chine. Regardez, si vous nous regardez à la télévision, ce message qu'a posté Donald Trump sur son réseau social Truth cet après-midi. Il a expliqué qu'il avait parlé effectivement avec le président chinois Xi Jinping. Ils ont parlé de beaucoup de choses. Ils ont parlé commerce. Ils ont parlé de TikTok. Là aussi, la Maison-Blanche était en train de calmer un petit peu le jeu sur le dossier TikTok. Ils ont parlé du fentanyl. Plus d'autres dossiers, il a dit, Donald Trump, il l'a écrit, c'était un très bel appel pour moi et pour la Chine. Voilà, c'est l'autre partenaire qu'il va falloir
se dire. Oui. Xi Jinping n'a pas répondu, il n'y sera pas, mais c'était quand même très symbolique d'inviter le président de la Chine à venir assister à son investiture. Il y a au fond une sorte de partenariat qu'il va essayer de mettre en place avec la Chine, Donald Trump.
Xi Jinping n'y sera pas, par contre vous aurez des Orban, vous aurez des Meloni, vous aurez des représentants. Mila, il y sera notamment, mais pas Xi Jinping.
Meloni, je ne sais pas, et Orban, je ne sais pas.
Alors, je crois qu'ils ont leur visite est confirmée. Mais a priori.
Regardez, on a des craintes de l'imprévisité de Trump, mais une période se termine avec Biden. Et je ne pense pas que les gens se souviendront en bien de Biden et de sa période. Il y a eu plein de catastrophes dans sa période. Plein de catastrophes au Moyen-Orient ou ailleurs, ou la bagarre.
L'Afghanistan, effectivement, etc. Le départ en calamiteux.
Donc, l'image Trump, imprévisible, etc., veut construire l'image d'un grand président qui fait des grandes choses, qui reste pour l'histoire. Vous avez parlé du prix de la paix, mais je pense, du prix Nobel de la paix, et qu'il rêve de ça, mais je pense qu'il qu'il a d'autres visées. Et la, le fait qu'il invite le président chinois alors que la bagarre est essentielle l'objectif stratégique des États-Unis et toute tendance politique confondue est d'affaiblir la Chine, c'est qu'il a des visions beaucoup plus grandioses, dangereuses, mais grandioses qu'on imagine.
On entre dans une autre galaxie, en tout cas, à partir de lundi prochain, hein, Richard Verdier. Hein,
on entre dans une autre galaxie, et surtout, là, si on regarde ça du point de vue de l'Europe, c'est qu'aujourd'hui, personne parmi les grands pays européens n'a un contact privilégié avec Donald Trump. Il y en a une seule, c'est Giorgia Meloni, mais elle est dans une position quand même assez particulière. Mais si vous prenez l'Allemagne, si vous prenez la France, il y a là clairement de la distance avec Trump, et c'est pas bon signe. Et même le Royaume-Uni, regardez la très mauvaise relation qu'il a avec Keir Starmer, le Premier ministre britannique. Oui. Ça augure quand même de jours difficiles pour l'Europe. Et pour l'Union européenne en particulier.
La diplomatie italienne est très active.
Oui.
Au Moyen-Orient en particulier.
Mélanie s'est particulièrement dédiée. Elle est allée faire du business à Mar-a-Lago avec Trump et avec Musk, d'ailleurs, on l'a vu. Voilà. L'Europe, on cherche toujours le numéro, comme disait évidemment.
Pour l'instant, il a le numéro de Giorgia
Meloni. Il a le numéro de Giorgia Meloni, c'est un bon début. Et de pas trop mauvaises relations avec Emmanuel Macron. On verra ce qu'il en sera encore dans quelques mois. Oh. C'est terminé, c'est passé très vite. Merci, messieurs, d'être venus pour cette très belle émission. Richard Verli, correspondant du journal suisse Blick à Paris. Samir Haïta, président du Cercle des économistes arabes. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. 18h55. Je vous redonne les grands titres dans un instant sur BFM Business car il sera 19h dans 4 minutes. À tout de suite.
Les experts sans frontières sur BFM Business.